Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h08, de retour dans les grandes gueules du sport. Merci infiniment de votre fidélité. C'est votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi avec ce matin Stephen Brun, Denis Charvet, David Douillet, Christophe Cessieux. Dans quelques instants, le bras de fer autour de la NBA qui s'est invité à Paris. Il y aura une team, c'était du sport, j'ai vu du sport. Une team, je n'ai pas vu du sport. À 11h30, les GG tout terrain, tous les samedis, le reportage de la rédaction d'RMC. Aujourd'hui, nous avons passé quelques jours avec les frères Ntama qui évoluent dans la même équipe au Stade Toulousain. Frères d'eux, comme Scribe, est-ce vraiment une bonne situation? On se posera la question. Le tennis, l'Open d'Australie, c'est toujours en cours avec Caroline Garcia, toute proche. De quoi? Les huitièmes de finale.
Let's go, Caro, let's go.
Eric Sadio.
Let's go. Oui, oui, à 3 points du match, Caro. 5-3 dans le troisième set, 15 à sur le service, le Racing Mut, on va beaucoup mieux. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça a été dans la douleur. Mais c'est pas encore fini. Il faut porter les stockades, mais c'est vrai qu'elle joue mieux. Elle a pris le service de l'Allemand. L'Allemand est de service. Donc 15 à. Allez, trois petits points, Caro. Ce sera la qualif pour les huitièmes de finale.
Stephen Brun, emballé par ce match de Caroline Garcia?
Emballé, oui, non, parce que le niveau de jeu est moyen, beaucoup de doubles fautes, un peu de stress. J'ai trouvé Caro très stressée, mais bon, si elle s'en sort, c'est bien pour la suite. Elle partait archi favori contre une joueuse qui a été surprenant. Maintenant, c'est pas fini. Il faut gagner, parce qu'après, si elle passe, les adversaires, ça se complique. On n'est plus sur la 158e mondiale, hein, quand même.
Non, bah déjà, c'est déjà bien au troisième tour d'affronter
Elle a battu toutes les grandes cette année.
On a quand même plus d'ambition pour Caro Garcia.
C'est une fausse 158, Stephen. C'est une fille qui a été 30, qui a été ensuite freinée par une sale blessure au genou. Elle vaut plus que 158.
D'accord, mais le
prochain tour, c'est jouable. C'est Magdalinette ou la Russe Alexandrova. C'est pas des foot de guerre. Hein.
Ah, c'est quand même meilleur que Sigmund Freud.
Je suis pas sûr.
D'accord.
C'est Sigmund, donc son nom de famille, pour comprendre évidemment la blague de Stephen Brun. Novak Djokovic, juste rapidement des nouvelles, Eric Salio. Deuxième set face à
Novak
Dimitrov.
Novak Djokovic mène un 7-0, 7-6, 3-2 dans le deuxième set. Il n'y a pas de break et Caro donc est à 2 points de la victoire, 5-3, 30 à.
Djoko s'est pas fait opérer de la cuisse, non? Tout va bien?
Pardon?
Djoko s'est toujours pas fait opérer de la cuisse, non?
Écoute, j'ai vu un brancard arriver, c'est peut-être pour lui.
Ouais. Très bien.
Toi qui connais le tennis par cœur, Eric Salio, est-ce qu'on reste avec toi pour la fin du match? On rappelle que c'est sur le service de l'Allemande, il y a 5-3.
Peut-être qu'il y a une balle de match, JC. Il y a une balle de match peut-être à venir.
5-3, 30 pour rester, JC.
30 à, Laura Siegmund est au service.
Allez, on reste un petit peu.
Si elle perd ce point, donc c'est balle de match pour la Française. On va voir ça. Première balle filée. On va pas nous faire un double, non, on va pas lui souhaiter.
Bon, pourquoi pas?
Non, juste un mot. Murray, c'est fantastique.
Ouais,
un set partout
pas.
Face à Bautista Agut, c'est génial.
C'est
génial. L'ambiance selon Margaret Court est fantastique. Deuxième balle de service pour Laura Siegmund. 5-3, 30 à. Elle prend tout son temps. Elle va se faire agresser normalement par Caroline Garcia, si tout va bien. Allez, sur le coup droit de Garo, bon retour. Caro, ça part à la faute. Siegmund, balle de match. Voilà.
Allez,
voilà la balle de match.
Et
la
bien, on reste avec toi sur RMC dans les grandes gueules du sport. Et dans quelques instants, le bras de fer.
Allez, on respire un bon coup. C'est vrai que après le premier set, on était un petit peu inquiet, mais bon, elle n'a pas paniqué. Et ça, c'est, je pense que elle surfe encore sur la confiance de ce formidable deuxième semestre 2022. Mais c'est vrai que Siegmund lui a posé des problèmes, lui pose toujours des problèmes. Balle de match, la première balle de match pour Caroline Garcia. Donc sur cette Kia Arena, qui est le quatrième court en termes d'importance, mais qui est vraiment une petite cuvette sympathique de 5000 places, et c'est plein à craquer. Allez, Caro. Je ne vous l'ai pas dit, mais elle joue en noir ce soir. Heureusement, elle ne porte pas le deuil. 30-40. Allez, Siegmund au service.
Noir, c'est bon, noir.
Le lancer de balle est foiré, donc on recommence. Siegmund, Laura Siegmund. Allez, elle est Caro. Elle est concentrée. Elle n'est pas à gicler. Elle a une première balle dedans. Retour agressif de Caro, ça ne suffit pas. Il faut encore travailler. Elle est en train de balader l'Allemande. Allez, un petit coup droit gagnant. Siegmund la remet. Je ne sais pas comment, mais là, ça va être un coup droit penalty. Oh, elle le met dans le filet. C'est pas possible.
Comment, Caro?
C'est pas possible. Elle avait fait le plus dur. Mais Siegmund a défendu comme une folle. Incroyable défense de Siegmund. Donc, désolé, 5-3, 40.
Ok, merci Eric Salio. Évidemment, on revient avec toi pour une autre balle de match éventuelle de Caroline Garcia. Les artistes entrent dans l'arène. Jeudi soir, la NBA était de retour à Paris. Cette année, la France était l'un des deux pays dans le monde à accueillir un match officiel de la plus grande ligue de basket après le Mexique. Un véritable show à l'américaine devant 15 000 spectateurs survoltés. Un casting 5 étoiles dans les tribunes pour promouvoir la NBA hors de ses bases. Un road trip évidemment marketing et économique. L'affiche, elle, était secondaire. Les Chicago Bulls affrontaient les Detroit Pistons, le 10e face au dernier de la conférence Est. Pour les non-initiés, c'est comme si tu organisais une rencontre Nantes-Angers à New York.
Voilà, n'importe quoi. Arrête de dire n'importe quoi, j'y sais.
C'était évidemment juste pour te faire réagir.
Je sors du débat.
Dans le coin gauche, la team c'était bien du sport. David Douillet, Stephen Brun et Denis Charvet. Dans le coin droit, ce que j'ai vu jeudi soir, ce n'était pas du sport. Christophe Cessieux, c'est parti pour le bras de fer des GG.
À votre avis, c'est qui le plus fort ? L'hippopotame ou l'éléphant ?
RMC.
Les grandes gueules du sport.
Le bras de fer GG.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame ?
Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, Nicolas Bayou, qui a commenté cette rencontre avec Stephen Brun sur RMC. Salut Nicolas.
Salut à tous.
Salut Nico.
Raconte-nous cette soirée hors du commun.
Ouais, c'était une soirée magique, pas uniquement parce que Magic Johnson était là. Il y avait 16 000 personnes avec des maillots de Chicago ou Détroit. C'était 16 000 personnes avec des yeux d'enfants. Et tous les spectateurs d'ailleurs ont récupéré une petite serviette basketball de Détroit aux couleurs des Pistons. C'est vrai que la NBA a su tout faire parfaitement avec les stars. Tu l'as dit, il y avait Magic Johnson, les légendes françaises de NBA, Tony Parker, Joakim Noah, Pharrell Williams, Aya Nakamura, les pilotes de Formule 1 français, Gasly ou Ocon. Et puis Victor Wembanyama. On a d'ailleurs vu Magic Johnson traverser le terrain pour aller faire une photo avec la pépite française. Et puis au niveau de l'ambiance, bien le show c'était du copier-coller de ce que l'on peut voir d'habitude aux États-Unis. La NBA avait dépêché le speaker officiel de Détroit. Il y avait le clip d'intro d'adduction des Bulls avec la vidéo et les taureaux, la célèbre musique d'Alan Parsons Project. Des DJ de Détroit ont ambiancé Bercy. Les cheerleaders étaient là. Il y avait également les deux mascottes des deux équipes. Le parquet spécifiquement ramené des États-Unis avec une superbe tour Eiffel au milieu. Le match était pour la première fois en clair sur Canal. Il y avait également 220 journalistes venus de toute l'Europe, dont 4 de Picsou Magazine. La NBA attire vraiment tous les médias. Et puis, ne soyons quand même pas dupes non plus, parce qu'il y a quelques points noirs. Le prix exorbitant des places, 500 € en moyenne. Et puis l'affiche, tu l'as dit, le match était très décevant, le niveau très faible de Détroit. En 2024, la NBA a assuré qu'il y aurait un autre match de saison régulière à Paris, avec, on l'espère, une plus belle affiche et des places un petit peu moins chères. Mais pour ça, malheureusement, rien n'est moins sûr.
Merci Nicolas Bayou pour ces précisions. Non, ce n'est pas la bonne musique. On ne va pas refaire un guet-apens, ce sera demain les copains. Le bras de fer des GG, c'était bien du sport, c'était pas du sport. Sachez que pour l'instant, c'était bien du sport. À 67%, vous avez été largement convaincus. C'est la norme. C'est Christophe Cessieux qui va débuter. C'était pas du sport, c'est ce que tu défends, on t'écoute.
Alors, je dis pas que c'était pas du sport, mais quand tu écoutes justement le papier de Nico, il nous parle que du show, en fait. Il nous parle pas du tout, voilà, ça a été un match incroyable, retournement de situation, des paniers incroyables à 3 points. Il nous parle même pas des stats, il nous a parlé que du show, que des stars qui étaient là, que des pilotes de Formule 1, que Magic Johnson qui vient, du prix des places. Je veux bien que ce soit du sport. Évidemment, il y a eu un match de basket, mais pour moi, c'est plus un show qu'autre chose. J'imagine évidemment que tous les fans de NBA.
C'est pas un show la NBA.
Mais oui, c'est un show la NBA. Donc... Non, c'est un show. Jusqu'au play-off. Et là, tu rentres dans une véritable compétition sportive. Mais avant, il y a combien de matchs de saison régulière? 82 matchs à s'infuser avant d'avoir vraiment quelque chose à se mettre sous la dent au niveau sportif. Alors évidemment que dans ces matchs, il y a des trucs incroyables. Mais là, c'est une affiche de deuxième ordre qu'on nous a mis. Si la NBA arrive à Paris un jour à nous mettre un match de play-off, là je dirais magnifique, mais ça j'y crois pas une seule seconde.
Il y a 3 ans tu disais exactement la même chose en 2020 quand ils sont venus, c'était les Bucks de Giannis Antetokounmpo et t'avais tenu exactement le même raisonnement.
Vas-y, tu te rappelles exactement le même
débat. Donc il faut qu'on te ramène qui en fait pour que ce soit un match entre deux équipes
qui se disputent la tête.
Ton discours il tient pas parce que tous les matchs de NBA sont pas du même niveau, justement parce que la saison est longue. C'est comme en top 14, de la même façon en top 14 il y a des matchs qui sont
Oui, mais pour promouvoir les NBA, est-ce que ce serait pas mieux d'avoir une grosse affiche? C'est la question que je pose.
Mais ils s'en foutent, ils ont besoin que du show. En fait, la NBA, c'est pour moi, ça me
parce que t'avais pas de grands joueurs.
Me fait penser, moi j'avais été voir les Harlem Globetrotters quand j'étais gamin.
Tu vas pas comparer un match de saison régulière NBA avec Harlem Globetrotters.
Franchement, je m'étais régalé parce que il y avait tout le spectacle tout autour qui me fait penser à ce qui s'est passé jeudi soir à Bercy. Mais c'est magnifique.
Qu'est-ce qui t'a manqué? Je comprends pas. C'est quoi qui te
manque? Il me manque rien.
Mais si parce que tu remets en question justement le niveau de ce match.
Mais je te dis que pour moi c'est la compétition sportive le jeudi soir.
C'est pas ce qui m'intéresse.
Ça avait pas beaucoup d'intérêt. Ça avait beaucoup d'intérêt. Tu étais vraiment à savoir. Oh là là, il faut à tout prix que les Bulls gagnent parce que c'est super important. Tu te rends compte pour la suite de leur saison en vue de qualification pour les playoffs.
Donnez les
pires. Bien sûr.
Couper les piles, couper le micro et donner les médicaments.
Donnez-lui les pilules, grosse première. Allez, c'est fait. Qualification Kira Garcia. Elle est heureuse, elle est radieuse. Elle revient de loin. 1-6, 6-3. Elle est en huitième de finale de l'Open d'Australie. On connaîtra son adversaire bien plus tard dans la soirée. Mais en tout cas, c'était un match compliqué. Mais elle s'en sort. Et c'est bien là l'essentiel.
La réaction de Caroline Garcia, ce sera évidemment à suivre très vite sur RMC. Merci, Eric Salio. Il y aura une Française en huitième de finale de l'Open d'Australie. On est très heureux, évidemment. Nous allons donc suivre et pousser Caroline Garcia qui s'est qualifiée. 1-6, 6-3. 6-3, c'était difficile, mais elle est soulagée, très heureuse. Caroline Garcia, c'était du sport, c'était pas du sport, la NBA à Paris cette semaine. On a écouté les arguments de Christophe Cessieux. À vous d'entrer dans le match. Vous défendez cette
NBA. Allez, régalez-nous, parce que franchement, au niveau du suspense sportif, ça a été quand même énorme ce qui s'est passé.
Denis Charvet.
Non, mais je regardais avec intérêt. Je pas en tant que fan, évidemment, parce que je défends, je suis pas fan ni de Détroit ni de Chicago, et encore que Chicago, l'histoire parle d'elle-même. Et que j'ai suivi l'épopée de Jordan, donc je suis un peu fan de Chicago dans l'âme.
C'est aujourd'hui, tu trouves que c'est la même équipe que
non, mais c'est pas la même
Jordan
équipe,
Pippen,
mais ouais. C'est l'histoire qui se répète un peu, donc même s'il n'y a pas de Jordan. Mais
l'histoire qui se répète.
Non,
ils ont le nom, ils ont le même nom qu'effectivement le.
On peut pas. Ce qui me gêne dans tes arguments, c'est que tu peux pas rester insensible.
Mais j'ai pas dit que j'étais insensible. Mais oui, je n'ai pas dit que j'étais insensible.
Si,
je t'ai dit, mais pas du tout. Mais enfin, Denis, écoute un peu et débouche-toi les oreilles.
Non, j'ai
pas dit que j'étais insensible.
Très bien écouté.
J'ai dit qu'il n'y avait pas de compétition sportive jeudi soir. J'ai dit que c'était un show
mais
magnifique à l'américaine.
Ils se rendent pas dans la gueule, les mecs.
C'est magnifique, mais alors tu vas pour le show. Mais dis pas que tu vas pour la compétition sportive.
Mais me dis pas que sur le terrain, ils se rendent pas dans la gueule pour autant. Je suis désolé. Il y a une vraie compétition. C'est une compétition de saison. Évidemment, tous les matchs ne peuvent pas avoir le même niveau. Et effectivement, c'était pas un grand niveau. Mais en même temps, tu peux pas dire que les garçons, ils sont là pour faire de la figuration. C'est là où je te comprends pas. C'est un match de NBA. Je suis désolé.
Moi, je suis très surpris que des gens puissent encore s'offusquer de ce qu'ils ont vu sur un match de saison régulière NBA entre une équipe qui est faible comme Détroit et une équipe qui est correcte comme les Bulls. C'est un match comme il y en a des centaines et des centaines en NBA. En fait, on parle que du show. Pourquoi Nicolas Bayou nous vend toutes les stars? Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Toutes les stars au premier rang, c'est tous les soirs dans les plus grands stades NBA. Il y a tous les plus grands acteurs, tous les plus grands musiciens, toutes les stars
mais
du rap, toutes les stars. Sauf que nous, on n'a pas l'habitude de voir ça. Donc on s'attarde là-dessus. Après, Christophe, t'es intelligemment, enfin t'es plus intelligent que la moyenne, tu sais que
alors
tu
ça, sais que, ça on peut non, pas,
y a,
c'est pas sûr
y a,
on peut pas l'assurer.
Il y a 30 franchises en NBA, 82 matchs de saison régulière, donc ça fait plus de 2400 matchs de saison régulière en NBA. T'es suffisamment intelligent pour comprendre que il peut pas y avoir plus de 2400 matchs de grande qualité en Ligue 1. Chaque week-end il y a 10 rencontres, plus de la moitié c'est des purges, mais ça reste du sport quand même.
Les places elles sont pas à 800 €, c'est ça que je veux dire. Heureusement, parce qu'autrement il y aurait pas grand monde dans les stades de Ligue 1.
Pourquoi c'était du sport pour moi? Parce que Goran Dragic, le meneur slovène des Bulls, après le match, a clairement dit que Chicago joue sa place en playoff et que pour eux, c'était impératif de gagner. J'ai vu le coaching de Billy Donovan, l'entraîneur des Bulls, faire jouer ses trois stars plus de 30 minutes. Trois joueurs qui ont été All-Star Game, qui s'appellent Zach LaVine, DeMar DeRozan et Nikola Vucevic, qui sont quand même trois garçons ultra reconnus dans cette ligue-là. J'ai vu deux équipes qui avaient envie de gagner. On s'offusque de la NBA s'exporte. Enfin, c'est pas le premier championnat à s'exporter.
J'ai pas l'impression qu'on s'offusque de ça. On est très
content qu'ils viennent faire du marketing. Bien sûr, on n'est pas dupes quand même qu'ils viennent sur le plus grand marché européen friand de la NBA en France. Après, vous voulez voir des meilleures équipes? D'une, il y a un problème de logistique, c'est que toutes les équipes de la conférence Ouest, parce que le décalage horaire, parce que le temps de voyage, c'est compliqué à faire venir. De deux, il faut faire venir ou une équipe où il y a un joueur français, en l'occurrence les Pistons, parce qu'il y avait Kylian Hayes. Rudy Gobert joue dans une équipe de la conférence Ouest. Evan Fournier joue au garde, joue à New York, mais il joue pas beaucoup. Et le problème de New York, c'est un énorme marché. Donc il faut aussi amener des équipes pour avoir une exposition. Donc je vous trouve sévère. Moi, il y avait un vrai enjeu sportif, sauf que c'est
la réalité de la saison régulière, une équipe qui est mauvaise comme Détroit, qui n'a que pour but de développer
des jeunes garçons et avoir
éventuellement un bon draft, et une équipe des Bulls, ça fait partie d'un match de saison régulière moyen, comme il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines durant la saison. David Douillet.
Moi, je pense que si ce n'était pas du sport qu'on a pu voir, je pense que des Nicolas Batum, Moussa Diabaté, Evan Fournier, Rudy Gobert, Tony Parker, Victor Wembanyama, ils seraient peut-être pas, ils existeraient peut-être même pas. Parce que justement c'est du sport et que c'est une preuve que c'est du sport, ça a fait rêver des jeunes et des moins jeunes et ça a créé une école française du basket qui est inspirée de la NBA et qui aujourd'hui est peut-être tu vas me confirmer ça peut-être Stephen
ça continue
le
à faire
premier fournisseur de la NBA et quand on a ça comme exemple de gens qui viennent démontrer leur sport, qui viennent de l'exporter chez nous, qu'est-ce que ça crée? Ça crée tous les personnages que je viens de vous citer, et ça upgrade le sport français, ça upgrade le basket français, ça nous fait faire des finales olympiques, ça nous fait peut-être gagner plus tard des grands championnats du monde, etc., etc. Parce que, justement, un jour, comme les Japonais l'ont fait dans le monde du judo, ils sont venus en France montrer ce qu'ils savaient faire.
Dit que la NBA, c'était pas du sport, j'ai dit qu'il n'y avait pas, dans ce match-là, de grand intérêt sportif, et on l'a vu sur le parquet. David, tu me fais pas dire ce que j'ai pas dit.
Oui, mais
la NBA, évidemment, les phases finales, beau, les playoffs, c'est fabuleux, Denis.
Mais arrête de parler des playoffs. Les playoffs, c'est à la fin. C'est très bien que c'est une compétition à part, les playoffs.
Les playoffs, ça élimine les équipes qui sont faibles. Christophe, tu retrouves que les bonnes équipes.
Je vais t'aider. Je vais aller dans le camp de Christophe parce que ce qu'il vous dit, et là, vous ne voulez pas l'entendre, c'est que lui ne critique pas. Il critique pas la NBA à Paris.
La question est claire.
C'était bien la NBA à Paris. Je pense qu'il était très heureux.
C'était magnifique pour le show. C'est un spectacle incroyable.
Pour les États-Unis, tout le monde est gagnant.
Bien sûr.
Maintenant, l'étape d'après, peut-être, c'est d'avoir des matchs plus intéressant, même si c'est vrai que la saison régulière, on ne peut pas savoir quel match.
C'est utopique de rêver d'avoir un match un jour de play-off à Paris.
C'est complètement utopique.
T'enlèves l'intérêt de l'équipe qui a l'avantage du terrain, qui joue à domicile devant son public. Donc c'est complètement utopique. Donc en fait, si ce match Chicago-Détroit, ça avait fait 125-123 et qu'il y avait un panier à la dernière seconde, pour toi, c'était mieux que la domination des Bulls sur les Pistons. C'est juste la physionomie du match, la physionomie du match qui fait que c'était pas un match, c'est un match sans intérêt pour toi.
Le niveau n'aurait pas changé.
Savoir que Détroit, ils ont aucun intérêt à gagner les matchs parce que de toute façon ils veulent terminer dernier pour avoir Wembanyama chez eux la saison prochaine. Si tu veux, ça casse un peu l'intérêt sportif d'une telle rencontre.
D'accord. Mais après, la promotion de ce sport, c'est génial.
Mais je t'ai pas dit ça. Mais tu comprends rien, t'es crétin ou quoi? T'es vraiment un crétin aujourd'hui, hein?
Un crétin, c'est un gros mot, crétin.
Crétin, non.
Jean-Luc Carrick,
c'est un monstre. Mais ça va avec. Est-ce que quelqu'un a pris les calmants pour Christophe?
Non, il comprend rien, mais ça va avec, capucine. Mais non, mais les copains, on se calme.
Jean-Luc Crétin, est-ce qu'il a peur qu'il se bouge, Jean-Luc Crétin?
On va demander à Arnaud Souk tout à l'heure.
Mais c'est David, t'as pas entendu les arguments de David, c'est lui qui a raison. Ça fait rêver des gamins.
Tu es sur la promo de la NBA. Christophe, il parle de l'intérêt de Détroit dans une équipe compétitive.
J'ai dit que si ces gamins-là n'avaient pas vu du sport, parce que la NBA, quand elle vient à Paris, c'est du sport. S'ils n'avaient pas vu du sport, ça ne les aurait pas fait rêver. Point barre.
Exactement. Alors là, un bémol, parce que moi, je trouve qu'aussi, quand on est gamin, le sport, ok, mais on aime les paillettes. Et ce qui amuse aussi les enfants.
Mais les deux,
de voir l'engouement
la musique,
autour du
les deux, tout ça.
Mais oui, mais ça, c'est pour tous les enfants. C'est pas pour ceux qui vont percer dans une discipline. Ceux qui vont percer dans une discipline, les futurs champions, ils rêvent pas des paillettes. Ils rêvent justement des grandes équipes, du grand jeu, du grand basket. C'est ça dont ils rêvent. Faut pas faire le distinguo entre des spectateurs lambda et ceux qui rêvent, mais le rêve de remplacer ceux qu'ils ont devant eux. Ça n'a strictement rien à voir. Vous trompez de débat.
Les gamins qui étaient à la Corotel Arena, ils ont pu voir Zach LaVine, vainqueur du concours de dunk All-Star Game, qui est une star NBA. Ils ont pu voir Demar DeRozan, qui est un fantastique joueur. Ils ont pu voir Nikola Vucevic. Et ces trois garçons-là ont joué, ont été bons, ont été performants. Ça montre aussi qu'il y avait un vrai intérêt sportif. Demar DeRozan, qui avait loupé les quatre matchs précédents, a fait en sorte d'être absolument rétabli parce qu'il voulait jouer ce match-là, parce que les Bulls sont dans une course contre la montre pour atteindre les playoffs. Donc c'est pour ça que l'intérêt sportif, pour moi, il y était.
Bien sûr.
Eh bien voilà, je propriétaire de la NBA l'a rappelé. On
rendit le score. Nous avons les attachés de presse de la NBA. J'espère que vous aurez des places pour aller voir les matchs importants aux États-Unis.
J'aurais
été
crabouillé.
Tu mets toujours du côté de l'enclume, du côté des plus forts, parce que évidemment te mettre
en position. Et l'enclume, je te le mets sur la tête.
Okay. Est-ce que quelqu'un peut s'il vous plaît,
ne reprenez pas tous en même temps à un moment donné. On a compris. Ne reprenez pas tous en même temps, sinon c'est compliqué. On ferme ce débat qui a très bien marché. Bravo les copains. Le bras de fer des GG autour de la NBA. Et c'est la team C'était du sport qui s'est imposée avec 68% des voix, 32% pour Christophe Cessieux, qui s'est bien battu face à vous, parce que vous, parfois, je dois le reconnaître, vous n'avez pas su entendre ce qu'il était en train de vous dire.
Les représentants du sport business,
il m'a traité, toi tu le défends.
Non, mais franchement. Non, ça, là-dessus, je vous ai demandé d'arrêter.
C'est quand même un crétin.
Je vous demande d'arrêter.
Ok, je reprends la main. On revient dans quelques instants. Les GG tout terrain autour des frères Ntamack, frère 2. Est-ce vraiment une bonne situation? On se posera la question. A tout de suite sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
11h33, on est de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission jusqu'à midi, de 9h à midi tous les week-ends. David Douillet, Denis Charvet, Stephen Brun, Christophe Cessieux sont avec nous. Alors ça a été un peu chaud lors du débat NBA. Vous êtes un petit peu insulté, Christophe Cessieux, Denis Charvet.
Non, c'est pas une insulte.
Je trouve ça regrettable.
C'est un compliment d'être crétin.
Je vous demande de vous excuser, Christophe.
Je vous demande de vous arrêter.
Christophe.
Je ne vais pas m'excuser auprès de Denis. Il sait très bien ce que je pense de lui.
Christophe. Dis je m'excuse.
Oui mon Denis, tu es mon crétin préféré.
Denis, tu l'as traité d'imbécile. Oui. Tu t'excuses?
Tu es mon imbécile.
Ok,
allez. Mais non, moi je l'adore.
Il y a du ski, vous le savez, on en parlait à 9h30 avec la célèbre descente de Kitzbühel. Arnaud Souk, on en est où?
Et oui, la célèbre descente de Kitzbühel, juste pour vous donner quelques chiffres. Voilà les skieurs qui démarrent à 1665 mètres d'altitude et qui arrivent à 800 mètres pour une descente de 3 km de longueur. C'est quasiment 2 minutes d'effort et c'est considéré comme l'une des descentes les plus difficiles du circuit. On parlait ce matin de la Mausefalle, qui est un saut qui se trouve au tout début de cette descente, pour vous dire, déclivité 85% à ce moment-là. Donc voilà, faut pas avoir peur quand on y va. Pour l'instant, trois skieurs se sont élancés. Joseph Ferstel, l'Allemand, qui vient à l'instant de signer le temps de référence devant le Norvégien Adrian Smithset Seyersted. On attend évidemment Joanne Claret tout à l'heure, Dossard 12, les favoris. Vincent Krichmayer, l'Autrichien, sera Dossard numéro 7. On aura également Beat Feuz pour la dernière descente de sa carrière, le champion olympique, Dossard numéro 9. Et puis Alexander en mode kill 2, qui s'est un petit peu raté, le Norvégien, hier, le meilleur descendeur de la planète, qui aura à cœur sans doute de se rattraper aujourd'hui.
Merci beaucoup Arnaud. Qui nous appelle encore?
Et tout le monde a le numéro, en fait.
Le téléphone rouge.
Ça marche
on
aujourd'hui.
On peut le trouver dans les pages jaunes, hein, sans problème. Le téléphone rouge, DGG, une personnalité nous appelle. On va prendre, évidemment, en direct. Allô, c'est qui? On décroche. Allô, c'est qui?
Allô, bonjour.
Bonjour,
Gilles Moreton à l'appareil pour la Fédération de tennis en direct de Melbourne.
Bonjour, Gilles Moreton. Merci d'être avec bonjour nous dans le grand club Gilles. Du sport. L'ami, salut. Évidemment, de Stephen Brun, qui a réussi à rattraper quelques coups. Hein. Gilles Moreton, merci d'être avec nous, président de la Fédération française de tennis. Le match de Caroline Garcia, on l'a vécu en direct, vient de se terminer. Qualification pour les huitièmes de finale. Est-ce que vous avez eu peur, un petit peu tremblé comme nous, elle qui a perdu le premier set?
Ouais, je crois qu'elle a eu du mal, Caroline a eu du mal à rentrer dans le match, un peu tendue. Alors, pas tendue par le fait qu'elle soit attendue maintenant par tout le monde, mais tendue par le fait qu'elle jouait une joueuse où elle était hyper favorite et une joueuse qui a délivré un match absolument remarquable, qui a gêné considérablement Caroline. Et la force que Caroline a en ce moment, c'est ma capacité à se remettre dans le coup, à parfois ralentir un peu le jeu et puis délivrer sur les points très importants son service extraordinaire et sa capacité à maîtriser ses nerfs. Donc grand coup de chapeau à Caroline qui continue son parcours ici à Melbourne.
Bon, on est vraiment très heureux, hein, forcément pour Caroline Garcia, la seule Française malheureusement à se qualifier pour les huitièmes de finale, à être présente en huitièmes de finale. Quel bilan pour l'instant vous tirez, Gilles Moreton, de nos Français? Il y en avait deux ce matin qui ont perdu logiquement face à deux joueurs meilleurs qu'eux, c'était Hugo Humbert et Benjamin Bonzi. Est-ce que vous êtes un président déçu ce matin?
Non, pas vraiment, parce que aujourd'hui, d'abord, l'ensemble des joueurs et joueuses qui ont disputé la compétition ici à Melbourne ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans les niveaux qui étaient leurs en ce début de saison. Aujourd'hui, Benjamin Bonzi a fait un très bon match. Malheureusement, il était, je crois, physiquement au bout. Hein, il a eu, il faut pas oublier que c'est seulement sa deuxième année. Il a 26 ans, deuxième année sur le circuit. Il arrive, il découvre un peu cet univers-là et c'est le très haut niveau. Donc physiquement un petit peu juste contre un joueur que j'adore. Dominor est un joueur extraordinaire physiquement, vraiment hyper complet. Et puis Hugo qui revient, qui regagne un peu en confiance, qui est là contre Runeux, qui à mon avis est un cran au-dessus. Et malheureusement ça l'a pas fait quoi. Mais globalement plutôt satisfait de ce qu'on voit aujourd'hui. Un petit peu déçu par Arthur Hinderknecht au début. Moi je pensais que sur cette surface il allait mieux se comporter et puis il a perdu le premier tour assez facilement. Voilà. Non, mais globalement on n'a pas à se plaindre. On est au niveau aujourd'hui des joueurs français qui gravitent au-dessus de la 40e, 50e place.
Ok, donc la logique est respectée malheureusement. Alors Gilles Moreton est avec nous en direct.
On a compris, Gilles, que bon, c'est pas avec le niveau actuel qu'on risquait de remporter demain un tournoi du Grand Chelem. On sait que la France, en revanche, malgré des jours difficiles, peut espérer un jour, et elle l'a fait par le passé, remporter la Coupe Davis. Encore faut-il que cette compétition reprenne du poil de la bête. On a appris il y a quelques jours donc que Cosmos se retirait. Vous étiez plutôt content parce que le bilan de Cosmos et de cette compétition était vraiment déplorable. Est-ce que vous avez aujourd'hui espoir de relancer cette compétition et de manière à ce qu'elle redevienne ce qu'elle a toujours été, une compétition très appréciée par les Français et qui nous a permis de briller par le passé, Gilles? Comment faire maintenant pour la remettre sur les clous, pour que les meilleurs joueurs du monde s'y intéressent, pour qu'il y ait de l'intérêt, pour qu'ils viennent la disputer avec des points ATP peut-être distribués? Est-ce que vous avez une réforme dans les cartons pour la remettre sur les rails?
Alors d'abord, on peut pas se satisfaire du bilan de la Coupe Davis depuis 3 ans. On pouvait il y a quelques années situer la Coupe Davis au niveau des grands chelems au même titre que la Fed Cup, maintenant la Billie Jean King Cup. C'était des épreuves qui gravitaient au sommet du tennis mondial, hein. Il y avait les grands chelems et puis il y avait cette compétition par équipe qui a fait vibrer beaucoup de nations. Donc on peut pas se satisfaire d'un échec au bout de 3 ans et personnellement, moi je crois que Cosmos a fait beaucoup de mal au tennis en arrivant, en proposant quelque chose qui tournait simplement autour de l'argent et pas autour de valeurs qui étaient véhiculées par une compétition par équipe. Donc oui, aujourd'hui on essaie avec les tournois du Grand Chelem de venir au secours, on va venir au secours je pense de cette compétition. Donc on va être force de proposition pour essayer de lui redonner un peu ses lettres de noblesse. Ce sera compliqué parce que le format a changé 3 fois en 3 ans, parce que les dates au calendrier ont été prises. Il ne faut pas oublier qu'il y avait 4 semaines qui étaient réservées pour la Coupe Davis. Maintenant, les ATP 1000 sont sur 12 jours, on a moins de dates, mais je suis sûr qu'on sera capable avec l'ATP, avec l'ITF et avec surtout je dirais les valeurs qui sont portées par les fédérations qui détiennent des grands chelems. Pour nous c'est la promotion du tennis avant d'être une affaire de business, et malheureusement je crois que l'ITF s'est trompé de cible en signant ce contrat en disant on va donner plus d'argent aux joueurs, plus d'argent aux nations. Bah oui, on a donné plus d'argent pendant 3 ans, mais on a surtout tué, j'espère pas définitivement, la Coupe Davis. Donc je serai en tout cas moi, au titre de la Fédération Française, un acteur avec mes collègues des Grands Chelems pour essayer de sauver, redonner vie à ces compétitions, parce que je veux mettre la Billie Jean King Cup aussi dans le coup. Il n'y a toujours pas de lieu pour les finales cette année, en 2023. L'année dernière, les finales à Glasgow pour les filles ont été catastrophiques sur le plan du spectacle et populaire, même si la Suisse a gagné brillamment. Mais voilà, un petit peu triste de ce qui s'est passé, mais bon, tout n'est pas perdu.
Tout n'est pas perdu. Juste, Gilles Moreton, en direct sur RMC, une question importante, parce que vous nous parlez et vous avez envie de revoir la Coupe Davis en haut de l'affiche. Est-ce que vous y croyez? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est quoi le nouveau format? Vous espérez quoi?
Non, mais je crois que, d'abord, personnellement, je me lancerai pas dans... c'est pas mon avis qui compte. Aujourd'hui, il faut remettre autour de la table les joueurs, l'ATP, les joueuses. Quel est le format qui correspond maintenant? Est-ce que c'est vrai? D'abord, il fallait réformer la Coupe Davis. L'ancien format était probablement trop long. Le changement de surface était assez délicat pour les joueurs. Donc, il faut qu'on remette les joueurs autour de la table, qu'on leur fasse comprendre que le paysage mondial du tennis peut voir les quatre tournois du Grand Chelem, mais doit voir une épreuve par équipe, une belle épreuve par équipe. C'est bien pour eux, c'est bien pour le tennis mondial. Et donc pour ça, il faut qu'on trouve le bon format. Alors est-ce qu'il faut revenir au passé, au Challenge Round, comme c'était le cas au début du siècle dernier, où le vainqueur, comme à la Coupe de l'Amérique, attend les autres, donc ce qui permettrait d'avoir un lieu de marketer. Je crois qu'il faut vraiment que tout le monde se mette autour de là. Est-ce qu'il faut le faire tous les deux ans en alternance avec les Jeux Olympiques? Je sais pas. Voilà, très sincèrement, je crois que je suis pas d'abord assez compétent, même étant très présent dans le tennis. Et je crois que ce sont les joueurs, les organisateurs, l'opérateur qui sera l'opérateur de demain. Alors, on verra qui sera l'opérateur de demain pour la Coupe Davis et la Billie Jean King Cup. Mais en se mettant, en réfléchissant, on est capable de trouver un format où tout le monde va être gagnant, les joueurs, les nations et surtout le tennis.
Bon, on l'espère. En tout cas, président, une information vient de tomber. Gérard Piquet de Cosmos veut racheter Roland Garros et mettre du dur. Vous êtes d'accord?
Formidable. Il voulait déjà racheter il n'y a pas très longtemps le Rolex Paris Masters. Il est venu me voir avec Cédric Pioline pour nous faire des propositions. Ça nous a fait beaucoup rire. Mais très sincèrement, je lui ai dit, mais vous confondez, monsieur Piquet. Il est venu dans mon bureau. Donc, je connais le personnage. Il faut qu'il retourne au foot. Et vraiment.
Et il n'est pas lié avec Shakira, parce qu'ils ne sont plus ensemble. Hein.
Oui, c'était pas ma question. Mais oui. Il vous a proposé quoi, par exemple?
Ah, j'ose pas. Il voulait qu'on organise, que la France organise la Davis Cup Final, les finales de Coupe Davis, et en contrepartie, il voulait nous piquer le Rolex Paris Masters.
Ah oui.
C'était de l'échange. Il voulait faire du truc, en fait. Il était là pour faire du truc.
D'accord.
Non, c'est sérieux. Ouais, ce que je dis est sérieux d'abord. Mais très sincèrement, ce monsieur-là, il faut qu'il retourne, je sais pas où, à ses études, ou au foot ou ailleurs, mais pas dans le tennis. Ouais. S'il vous plaît, pas dans le tennis.
Gilles, petite question sur l'organisation d'un grand chelem. On sait que Roland Garros avait instauré une night session qui a un petit peu fait plus ou moins polémique. Là, les night sessions en Australie, avec notamment Andy Murray, où les matchs se terminent tard, pénalisent les joueurs. C'est quoi ton point de vue là-dessus, toi?
Mon point de vue, c'est qu'on va déjà avancer en 2023, avancer un peu la night session qui était à 21h. Nous, on n'a qu'un seul match le soir, hein, donc on n'a pas deux matchs comme eux peuvent avoir. Au départ à 19h, on va l'avancer à 20h30 un petit peu. Donc on est conscient qu'on n'est pas... alors chaque pays a sa propre culture. Ici, beaucoup de matchs se jouent le soir. Hein, donc il y a plusieurs cours qui jouent en night session. Et puis là, il y a encore dans le stade aujourd'hui, maintenant peut-être 80 000 personnes dans le stade, réparties dans le stade. À Roland-Garros, c'est un peu différent. D'abord, la météo est aussi un peu différente. Donc je crois que le night session permet à un nouveau public de venir voir un match. On a moins des spécialistes comme on a dans la journée à Roland-Garros, où on a des gens qui restent en moyenne 8h40 à Roland-Garros dans la journée. Le soir, on a des gens qui peuvent venir et qui ont travaillé dans la journée, qui peuvent venir voir un seul match. Et je crois que c'est une bonne chose pour la promotion du tennis, ce qui est notre mission première en tant que fédération. Je crois que c'est une bonne opportunité.
Merci beaucoup Gilles Moreton d'avoir été avec nous en direct, et on espère vous avoir dimanche prochain heureux avec une victoire de Caroline Garcia.
Ce sera samedi prochain.
Oui, mais nous ce sera dimanche matin.
Si vous êtes disponible, pardon.
Ouais. Avec grand plaisir. J'avais anticipé le décalage
horaire.
Merci
en tout cas.
Mais en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Et à bientôt sur RMC. Gilles Moreton en direct d'Australie pour cet Open d'Australie. Et je rappelle donc l'information, Caroline Garcia, dernière française qualifiée pour les huitièmes de finale. On se retrouve dans quelques instants. On a bouleversé évidemment un petit peu le programme avec le président, monsieur le président de la Fédération française de tennis qui était avec nous en direct, Wilfried Templier, pour le reportage de la semaine autour des frères Ntamack. À tout de suite.
RMC, les grandes gueules du sport, 9h midi,
Jean-Christophe Drouet.
9h49, on est ensemble durant une petite dizaine de minutes à partir de midi, les paris RMC autour des 16e de finale de la Coupe de France, toujours avec David Douillet, Denis Charvet, Stephen Brun, Christophe Cessieux, Gilles Moreton, le président de la Fédération française de tennis, était avec nous il y a quelques instants. On a bouleversé un petit peu notre programme. Tout de suite, l'instant reportage.
RMC, les GG sont sur le terrain.
Deux frères rugbyman qui évoluent depuis peu sous le même maillot au plus haut niveau, celui du Stade Toulousain. On parle beaucoup de Romain Ntamack. Il y a également désormais Théo Ntamack, les deux fils d'Émile Ntamack, lui-même ancien glorieux international du Stade Toulousain. Deux frères proches et complices qui sont arrivés à atteindre leur but, être des joueurs de rugby, mais des joueurs de rugby professionnels. Salut Wilfried Templier.
Salut Jean-Christophe, bonjour à toutes et à tous.
Et pour nous, tu les as rencontrés.
Effectivement, tu l'as dit, c'est l'histoire de deux frères dont le papa est international au Stade Toulousain, qui ont donc bien sûr baigné et grandi dans le rugby, qui ont commencé tous les deux au même âge, 5 ans, sauf que Romain, l'aîné, a 3 ans de plus que Théo, le cadet. Alors évidemment très jeune, vous imaginez, c'est un écart important physiquement, surtout quand vous jouez en face à face à la maison ou dans le jardin. Comme le dit Théo, il y avait des pleurs.
Ouais, pleurs un peu, d'énervement surtout, et ouais, c'est vrai qu'il m'a beaucoup fait mal. J'ai fini deux, trois fois à l'hôpital quand même, donc c'était pas marrant. Mais bon, parce qu'il voulait avoir le dernier mot, mais moi aussi.
C'était quand même sans faire exprès, je m'en voulais beaucoup quand même à chaque fois. Mais voilà, après on s'est jamais engueulé, on s'est jamais fait la tête tous les deux. Non, franchement, c'est toujours bien entendu. Des petits accrochages, tout souvent, mais sans faire exprès, sans mauvaise intention, donc rien de très 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 grave quand même.
Moi, quelques points de suture, mais
on s'y fait au bout d'un moment.
Oui, quelques accrochages, quelques points, ça vous forge un jeune rugbyman. Mais c'est vrai, Emile, le papa nous a confirmé, il y avait quelques dossiers médicaux dans une clinique toulousaine. Alors s'ils grandissent ensemble, ils ne peuvent évidemment pas jouer ensemble à Toulouse. Trop d'écart, hein. Théo vit donc l'ascension de son frère et le tout premier match de Romain en équipe première le 30 septembre 2017, à l'âge de seulement 18 ans. Le petit, stressé comme si c'était lui.
Un peu stressé, je me rappelle son premier match, j'étais contre Agen. Moi j'étais en stage, je l'avais regardé sur mon téléphone, ouais, j'étais stressé un peu. Mais après, franchement, quand il est rentré, il m'a vite rassuré, on va dire. J'ai stressé, ouais, qu'il fasse un bon match, qu'il montre qu'il est bon, qu'il a sa place ici. Parce qu'à l'époque, voilà, Ntamack, ça parlait beaucoup parce qu'il avait rien fait, j'avais rien fait, il n'y avait que notre père. Mais voilà, donc il a vite rassuré tout le monde et après, ça a commencé à s'enchaîner et maintenant, il a 100 matchs avec le stade.
Déjà 100 matchs au compteur avec Toulouse pour Romain, sans parler des 31 sélections avec le 15 de France, Coupe du Monde au Japon, Grand Chelem l'an dernier. Mais vous avez beau être programmé de la sorte pour tout absorber cette saison, quand votre petit frère Théo débarque à l'entraînement chez les grands, bah à son tour ça bouge.
Bon, au début ça fait bizarre parce que comme on te l'a dit, on n'a jamais évolué ensemble, on s'est jamais entraîné ensemble, donc forcément ça fait drôle au début. Mais comme il l'a dit pour moi j'étais un peu stressé pour lui sur les premiers entraînements, mais après voilà, il m'a vite rassuré, j'ai vu qu'il était largement capable d'évoluer avec nous, donc justement très très fier et très heureux de pouvoir m'entraîner avec lui. Et puis voilà, l'inquiétude est vite passée au fait que je sois rassuré, que je sois tranquille sans toujours me soucier de ce qu'il a à faire.
Leur première des deux sous le maillot toulousain devait se faire le 11 septembre dernier face à Toulon, mais Romain s'est blessé avant que Théo, qui était remplaçant, ne rentre sur le terrain. Ce sera finalement le 27 novembre à Lyon. Cette fois-ci, les deux sont titulaires. Théo, 20 ans, qui avoue que Romain, 23 ans, a toujours été une source d'inspiration pour lui. Mais Théo vous parle du tunnel d'avant-match et le fait de jouer avec son frère.
Je me rappelle qu'il était venu me chercher, j'étais un peu derrière la queue, là, à attendre de rentrer sur le terrain. Il était venu, il m'avait fait comprendre qu'il fallait qu'on rentre ensemble sur le terrain. Et ouais, c'est cool ça, il me porte bien. En fait, ça va tellement vite qu'on n'a même pas le temps de se le dire, mais je pense que voilà, on le sait tous les deux. Moi, je suis super content de jouer avec lui aussi, mais je pense que ça va tellement vite, on est tellement concentré que finalement, ça passe en second plan. Mais c'est après le match qu'on se dit, putain, c'est cool quand même qu'on ait joué ensemble, même si pour l'instant, il n'y a pas eu trop de victoires qu'on a joué ensemble, mais c'est vrai que c'est plaisant de jouer avec son frère.
Sinon, la médiatisation de Romain, aucun problème d'ego pour Théo, très content pour lui, puis content aussi d'être tranquille de ce côté-là, lui. Les deux rêvent quand même un jour de porter ensemble le maillot bleu, de vivre une Marseillaise côte à côte. Sachez que Théo est dans la lignée. Il a été capitaine de l'équipe de France des U20. Mais pour finir, il y a une chose qui a changé. Romain est un solide gaillard, 1m86, pas loin des 90 kilos. Eh bien, sachez que le troisième ligne, Théo, 20 ans, fait maintenant 1m93 et 105 kilos. Alors, par curiosité, Romain, est-ce que ça fait toujours des 1 contre 1 avec le petit frère?
Moi j'évite, c'est surtout moi qui évite en ce moment. J'essaie surtout moi de le choper un peu, mais il m'attrape quelques fois d'entraînement, ça suffit déjà, donc non, on va pas se rajouter d'un contre un, en tout cas moi je vais l'éviter.
Troisième ligne rugueux, c'est compliqué, oui, je sais pas si c'est lui parce que c'est lui ou parce que c'est un demi d'ouverture, mais moi j'aime bien monter fort, hein. Donc c'est vrai que je le fais un peu chier des fois.
Non mais c'est le jeu, l'entraînement, certes on est frères, mais comme avec des amis, quand on est sur le terrain, après c'est le jeu, donc voilà, ça fait partie du rugby, donc quand je vois qu'il est dans la zone, j'essaie de l'éviter. Parce que je sais qu'il va monter fort, mais voilà, ça me fait travailler, ça le fait travailler aussi, et puis c'est très bien.
Voilà, messieurs, peut-être qu'entre les deux, les points de suture ont changé de camp maintenant.
Merci beaucoup, Wilfried Templier, pour ce reportage auprès des frères Ntamack. Denis, une réaction rapide. C'est facile d'être le frère de Romain Ntamack ?
Pas forcément, mais j'ai l'impression qu'il le vit bien, donc tout ça va, et puis surtout ils s'entendent bien, donc on n'est pas obligé parce qu'on est frères de s'entendre bien, mais apparemment eux ils s'entendent bien. Moi j'ai eu la chance de jouer un peu avec mon frère, mon aîné, c'est toujours
David.
Ouais, bien sûr. Eric. Mais à Cahors, et c'est un peu spécial, ouais.
L'avantage, c'est qu'ils ne jouent pas au même poste, parce que dans d'autres sports, rappelez-vous, en biathlon avec les frères Fourcade, là, ils étaient vraiment concurrents. Et lorsque le petit frère Martin a supplanté le grand frère, ça a été très dur à vivre pour Simon, cette époque-là.
Voilà, le sport individuel versus le sport d'équipe. Merci les copains. On va passer au ski. On va voir comment ça se passe pour cette descente de Kitzbühel, cette descente mythique sur la Strafe, Arnaud Souk.
Et pour l'instant, c'est un Américain qui est en tête, Travis Ganong, devant le vainqueur d'hier, l'Autrichien Vincent Krichmayr. Un Allemand complète le podium provisoire, Romet Baumann. Mais il reste encore beaucoup de skieurs à passer, parmi eux Beat Feuz, qui vient de s'élancer pour la toute dernière descente de sa carrière, le géant suisse qui a un palmarès long comme le bras, et notamment quelques médailles d'or au plus haut niveau, et notamment au niveau olympique. On aura également Dominique Paris dans la foulée, qui sera intéressant à surveiller. Johan Claré, dossard numéro 12, et puis Alexander Omotkilde, le Norvégien, qui sera dossard numéro 14. On suivra également, pourquoi pas, Audemars Tradinger, Matteo Marsaglia, ou encore Stéphane Rogentin, le Suisse, qui pourrait, pourquoi pas, venir se placer sur le podium.
Ah, tout à l'heure, Arnaud Souk, évidemment.
On parlait tout à l'heure du parterre de stars à l'Accor Hotel Arena, NBA. Là, il y a Ramon Schwarzenegger à Kitzbühel. C'est vrai, en plus. Hein.
Bah oui, Arnaud, évidemment,
il est tous les ans. Est-ce que c'est du sport?
Au départ,
on l'a perdu.
Il n'y a pas Magic Johnson. Merci beaucoup, les GG, d'avoir été
avec David.
David, on l'embrasse. Merci, mon David. Merci, mes GG. Merci à vous, les auditeurs, d'avoir été avec nous. On se retrouvera évidemment demain à partir de 9h dans quelques instants. Les Paris RMC autour des 16e de finale de la Coupe de France. On vous embrasse et à demain, 9h. Je compte sur vous. Salut.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.